moins insultant, qui travaille à l'IRD, laboratoire de scénographie de climat de l'UPSM. Je vais prendre la suite directe de Sylvie, donc, qui a parlé des bouleversements climatiques à grande échelle. Et donc, moi, je vais parler de comment on arrive à une échelle qui définit vraiment la vulnérabilité, c'est-à-dire l'échelle régionale ou l'échelle locale. Et donc, quelles sont les méthodes pour aller à cette échelle-là et quelles sont les incertitudes pour associer donc, à ce transfert d'échelle et associer à la définition des impacts du changement climatique sur les sociétés, sur les ressources. Donc, ce graphique, Sylvie l'a déjà montré. Donc, il s'agit de l'augmentation de température pour différents scénarios et différents horizons de temps. Et ce qui est important à voir là-dessus, c'est que quand le GIEC donc, va dire plus 2 degrés ou plus 3 degrés à l'échelle globale, donc limiter le réchauffement à plus 2 degrés, en fait, ça cache une grosse hétérogénéité régionale. Donc, il va y avoir des régions où ça va être plus 4 degrés, plus 5 degrés, et d'autres où ça va être moins. Donc, il y a une forte hétérogénéité régionale. Et même quand on va à l'échelle d'un pays, par exemple, il va y avoir la canicule de 2003, donc ça, c'est un événement, et ça, c'est beaucoup plus que la moyenne de plus de 2 degrés. Donc, ça cache aussi des événements extrêmes. Et donc, ce qui est important, c'est d'essayer de descendre à des échelles qui sont pertinentes pour définir des facteurs de vulnérabilité. Donc, ces graphiques, c'est ce que Sylvie a montré, c'est ce que produit le GIEC. Donc ça, c'est un exemple pour les précipitations. Donc c'est l'augmentation des précipitations pour un des scénarios, donc un scénario qui réchauffe beaucoup, donc c'est le scénario A2, avec une augmentation de précipitations autour de 6% sur l'échelle du globe jusqu'en 2100. Et ça, c'est la carte donc, qu'a montré Sylvie, donc ce que produit typiquement le GIEC. Donc avec des zones où il va y avoir une diminution des précipitations, donc ça c'est différent de ce qu'on voit à l'échelle globale. Il y a des zones où ça va être diminué et des zones où ça a tendance à augmenter. Donc ça c'est un peu les limites de ce que peut faire le GIEC avec des résolutions, donc des outils qui sont autour de 300 km qui peuvent faire des diagnostics à l'échelle d'un pays. Maintenant, il y a d'autres phénomènes qui sont très importants, rien qu'au niveau des précipitations qui vont avoir un impact très fort sur les sociétés, par exemple les cyclones, c'est à des échelles qui sont inférieures de ce que peuvent produire vraiment les modèles de climat, donc c'est à l'échelle de la centaine de kilomètres, donc on arrive vraiment aux limites de l'outil du modèle de climat qu'a présenté Sylvie, et donc ça c'est des événements qui ont un impact très fort sur les sociétés. Autre événement qui peut être très important, c'est à l'échelle de la dizaine de kilomètres, donc des événements pluvieux très intenses comme les cévenoles, dans le sud de la France, donc ils vont provoquer des inondations. Donc ça, c'est pas du tout résolu par ce type de modèle de climat. Et à l'échelle du kilomètre, à l'échelle d'une parcelle, à l'échelle d'un champ, donc là aussi, on se trouve à des échelles très très fines. Donc ici, c'est un exemple d'un paysan sahélien qui va attendre un événement de pluie pour commencer son semis, pour faire démarrer sa sémiculture. Donc ça, on n'est pas capable de dire si cet événement va arriver tel ou tel jour. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi cruciales pour l'agriculture. Et puis enfin, à l'échelle la plus locale, donc à l'échelle de la plante, donc quelle va être l'eau que la plante va réellement boire, va utiliser pour sa transpiration, pour son fonctionnement. Donc là, on se retrouve vraiment à l'échelle du point. Donc il y a toute une cascade d'échelles, et en particulier les échelles qui sont ici en rouge, qui sont les plus pertinentes pour les impacts, ne sont pas vraiment... pas vraiment possible par les outils actuels de modèles de climat tels que présente le GIEC. Donc ici, au point de vue méthodologique, cette inadéquation d'échelle, donc on a des modèles de climat, donc à l'échelle typique de 300 km, donc avec des mailles, et donc l'échelle la plus fine, donc l'échelle des systèmes, des vulnérabilités, donc l'échelle des débits, des inondations, des rendements des cultures, donc c'est à l'échelle fine. Donc on a une inadéquation d'échelle, et ce qui va être important, ça va être de trouver quelle va être la pluie à l'intérieur de la maille de 300 km par 300 km, ou de 200 km par 200 km, qui va produire tel ou tel débit, ou qui va produire telle inondation. Donc on a actuellement des outils que j'ai appelés ici des modèles d'impact, donc ils vont être typiquement des modèles hydrologiques, qui vont calculer à partir de la précipitation ou à partir de l'utilisation des sols, qui vont calculer le débit des fleuves. On a des modèles de croissance de plantes, qui vont permettre de restituer le rendement d'une culture à partir de la précipitation ou à partir des températures. Et on a un problème en fait d'échelle, parce que ces modèles-là ont besoin d'entrées climatiques à l'échelle de 1 mètre à 10 km. Et donc on a un problème de passage d'échelle. Comment passer de l'échelle des modèles de climat à l'échelle la plus fine? Donc pour ce faire, en fait, on utilise des méthodes qu'on a appelées la désagrégation, la régionalisation. Donc ça va être comme ce que montre un petit peu cette glace qui coule. En fait, ça va être d'utiliser, de dire que en fait, le climat à l'échelle locale qui détermine vraiment les impacts et les vulnérabilités, en fait, il est conditionné par des phénomènes à grande échelle, donc des modèles de climat, de la variabilité à grande échelle. Et mais va être conditionné par ça et par un certain nombre de caractéristiques locales qu'on va essayer de définir et donc de faire ce lien entre cette grande échelle et cette échelle locale. Donc à partir de... En fait, on a deux façons de faire, deux méthodes qui sont un petit peu différentes. De la désagrégation statistique. Donc ça va être d'utiliser des relations statistiques entre la grande échelle, donc le sommet aussi de la glace, et l'échelle locale, des relations statistiques. Donc c'est des choses qui sont relativement faciles à faire et qui n'ont pas besoin de beaucoup de calculs, mais par contre qui font des hypothèses assez fortes. Donc je vais vous présenter des hypothèses de stationarité et qui ont besoin donc de données. Et puis un autre type de méthode, c'est la désagrégation dynamique. Donc ça ressemble un petit peu au modèle de climat que vous a présenté Sylvie, mais c'est des modèles de climat à beaucoup plus petite échelle qui résout explicitement donc toute la circulation atmosphérique et océanique. Mais donc qui sont à des résolutions très fines, donc qui ont besoin de beaucoup beaucoup de calculs et qui sont paramétrisés ou calibrés sur une zone. Et donc qui sont difficiles à mettre en place et qui ont des biais, ça aussi je vais vous le présenter. Donc je vais vous présenter des exemples à chaque fois des évaluations statistiques et dynamiques, donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on sait faire et les incertitudes associées. Donc des évaluations statistiques, je dis, c'est dire que la variable locale, donc ce qui nous intéresse, la pluie à l'échelle locale, la pluie pour la plante, ça va être une caractéristique, une fonction de la grande échelle et des caractéristiques régionales. Donc par exemple, c'est de faire une régression, donc une corrélation, entre la pression de surface, donc un système anticyclonique, un système dépressionnaire, et la précipitation qu'on observe localement. Donc faire une régression comme ça, en se disant que, par exemple, la pression de surface ou un système anticyclonique, c'est à très très grande échelle. Et donc ça, c'est les caractéristiques que peuvent représenter assez bien les modèles de climat. Donc les avantages, c'est que c'est relativement facile à mettre en place. C'est adapté pour n'importe quelle situation, dès lors qu'on a des données, donc des données fiables sur la région. Et puis c'est aussi assez bien, parce que ça corrige les biais des modèles de climat. Donc on est capable, avec notre régression, de ramener en fait la sortie du modèle de climat vers nos observations. Par contre, il y a des problèmes, c'est qu'on fait l'hypothèse que les relations ici entre la grande échelle et les caractéristiques régionales vont être les mêmes dans le climat actuel et dans le climat futur. Donc ce qui n'est pas du tout évident. Et puis, autre problème, c'est que c'est sensible au choix des prédicteurs. Donc il faut qu'on trouve, par exemple, ce prédicteur-là, la pression de surface du modèle de climat, il faut qu'il soit vraiment déterminant pour la précipitation. Donc il faut qu'on ait des paramètres qui sont vraiment discriminants. Donc on a un certain nombre de méthodes qui peuvent être utilisées, donc ce sont de trois types. En fait, ça va être des générateurs de temps, ce qu'on appelle les générateurs de temps, on connaît les propriétés du climat, on va les simuler, donc on connaît la distribution des pluies, on sait que ça suit une loi de Gamma, ou la distribution de température, ça suit une loi gaussienne. Donc on connaît ces distributions statistiques, on connaît les paramètres de la distribution, et on va générer le temps. Et on va générer un climat virtuel qui peut être conditionné ou non par la grande échelle. Donc des méthodes de régression, donc, comme ce que je vous ai montré là, qui peut être linéaire ou non linéaire. Et puis des méthodes par type de temps, donc, qui va être de classer des situations, de dire que telle situation à grande échelle correspond à l'échelle locale à une certaine distribution de la pluviométrie. Donc exemple de relation avec... des types de temps. Donc ça, c'est des anomalies de pression de surface. Donc avec en bleu, c'est des anomalies négatives. Donc ça caractérise des situations dépressionnaires. Donc plus une diminution de la pression par rapport à la moyenne. Et ici, c'est les précipitations donc par rapport à la moyenne. Donc avec en bleu plus de précipitations et en rouge moins de précipitations. donc qui correspondent en fait à ce type de temps qu'on observe. Donc on observe à grande échelle un type de temps qui va être une dépression ici, ça fait ici au niveau de l'Angleterre. Et donc ça correspond en fait à un flux de sud-ouest, donc qui amène plus de précipitations ici à l'ouest du pays et moins dans le sud. On a autre type de temps un peu différent qui va également discriminer les précipitations à l'échelle de la France. Ici c'est un anticyclone avec ici une dépression. Là on a plutôt un flux de sud qui va augmenter les précipitations dans le sud. Donc à partir de ça, on peut établir, quand on va voir dans le modèle de climat, ou quand on va voir dans le futur ce type de situation-là, on va lui attribuer cette carte de précipitation à l'échelle locale. Ça, c'est un exemple de méthode basée sur les types de temps. Donc maintenant, l'autre grand type de méthode, c'est la désagrégation dynamique. Donc Sylvie nous a parlé des modèles à grande échelle, qu'on appelle ici les GCN, des modèles à grande échelle, en fait, et à l'intérieur de ces modèles à grande échelle, on va donc pour une zone donnée, pour une région limitée, on va y insérer en fait un modèle à plus petite résolution, typiquement 10 km à 50 km. Et donc ce modèle est imbriqué en fait au grand modèle et va recevoir donc sur ses bords, donc à chacun des bords de la fenêtre, il va recevoir la grande échelle du modèle de climat et il va produire donc son propre climat. En intégrant donc toutes les caractéristiques locales, donc tout ce qui est orographie, tout ce qui est propre à l'échelle considérée, à la région considérée, et donc va permettre de capturer des phénomènes à l'échelle beaucoup plus fine. Et en plus, c'est particulièrement bien adapté pour les changements climatiques. Donc le problème, c'est que c'est assez difficile à utiliser. Donc ça, on voit que c'est des échelles très très fines, donc ça coûte beaucoup en calcul. Et puis, donc, ça a tendance à reproduire les mêmes biais que les modèles de climat. Donc ça, c'est un problème pour les incertitudes sur les impacts. Et ça a également tendance... Donc on a également des tendances à avoir des incertitudes sur le choix des paramétrisations, sur le choix du modèle. Donc c'est le même type d'incertitude qu'il y a dans les modèles de climat. Donc ça, par exemple, c'est l'orographie d'un modèle de climat, du modèle anglais du HCM. Donc sur l'Inde, donc ici avec là on voit les reliefs. Et là c'est la même orographie mais dans un modèle régional, un modèle précis. Donc on voit qu'il y a des caractéristiques locales, régionales qui sont beaucoup mieux représentées ici. Et ça a un impact sur le climat. Donc là c'est le climat observé au milieu. Ça c'est le climat du modèle global. Et ça c'est le climat du modèle régional. Donc avec donc cette représentation de l'orographie. Et donc c'est les précipitations ici en bleu, donc on voit sur la zone côtière de l'Inde une bien meilleure représentation que dans le modèle global, qui se rapproche beaucoup plus de l'observation. Donc on a des phénomènes beaucoup plus fins. Donc autre exemple, où on voit bien l'imbrication des deux modèles. Donc ici c'est à grande échelle, c'est les réanalyses, donc c'est aussi sur des mailles de 100 km par 100 km. Et à l'intérieur de ça, on a emboîté un modèle régional qui s'appelle WRF, où on voit ici un cyclone qui se développe sur le Pacifique Sud. Donc ce type d'outil peut permettre de représenter des phénomènes très fins à des échelles très locales. Donc maintenant, ce que je vous ai parlé, donc c'est la régionalisation, c'est définir des scénarios régionaux. En fait, ça s'inscrit, c'est un maillon de la chaîne méthodologique qui permet d'estimer les impacts, de quantifier les impacts du climat sur les sociétés. Donc ici, ce que j'ai caractérisé, c'est les différents maillons de cette chaîne-là. Donc qu'est-ce qu'il faut pour définir les impacts du changement climatique, donc, qui peut être un des facteurs de vulnérabilité à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. Donc ça va être déjà de définir des scénarios économiques, donc ils vont dire quel va être le type d'émission de gaz à effet de serre, donc qui va influencer le forçage sur le climat. Donc à partir du modèle de climat, donc la montée civile, on va définir l'ensemble des possibles sur le climat. Ensuite, ce que je vous ai montré, ça va être de définir quel va être l'impact à l'échelle régionale. On utilise ensuite des modèles d'impact, donc calculer le ruissellement en fonction de ce scénario, calculer le rendement. Ensuite, il peut y avoir des phénomènes d'adaptation. Donc, en fonction de la réponse, on va s'adapter, donc on va modifier l'impact du futur. Et donc tout ça s'inscrit en fait dans une sorte de cascade d'incertitude, où la régionalisation est un peu au cœur de ça. Et dans chacun de ces éléments, en fait, il y a de l'incertitude. Et donc, qui va faire que la réponse ici va être en fait assez difficile à estimer En tout cas, on va donner une fourchette qui va être très très large, puisque en fait on combine toute cette incertitude. Donc je vais essayer de vous montrer quelques exemples de cette incertitude-là. Donc ici, c'est un exemple d'une étude qui a été faite, qui a regroupé en fait les résultats de 16 publications qui ont été publiées sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Donc tous les résultats de ces 16 publications ont été combinés de manière à regarder un peu la réponse, l'évolution du rendement dans le futur, donc faire un histogramme de la probabilité de réponse du futur de l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Et donc on voit que cette réponse-là, en fait, donc ici c'est le zéro, on voit qu'on a entre moins 50% à plus 100%, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un rendement qui va être divisé par 2 ou qui peut être multiplié par 2. Donc une incertitude qui est très très forte. Et on voit quand même qu'on a tendance à avoir une réponse qui est plutôt du côté négatif. Et ça reste assez difficile à quantifier. Donc tout ça, c'est le fruit de la combinaison des incertitudes dans tous les domaines. Donc par exemple, ici, c'est le même graphique. Donc j'ai séparé dans l'histogramme en deux en fonction du forçage radiatif. Donc selon qu'on va émettre beaucoup de gaz à effet de serre, donc on va avoir un impact fort sur le climat, ou selon qu'on aura un impact modéré. Et donc on voit que l'histogramme ici, selon que si on a un impact très fort, on va avoir un impact plutôt négatif sur le rendement, alors que ici, si on a un impact qui est plutôt modéré, un forçage qui est modéré sur le climat, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, on voit que là on se trouve centré au niveau de zéro. Donc les scénarios du futur vont introduire une incertitude qui est très importante. Donc aussi ce qu'a montré Sylvie, c'est que selon les régions, l'incertitude n'est pas la même. Donc on voit que l'incertitude issue des modèles de climat est particulièrement importante en Afrique, où ici, comme ce qu'a montré Sylvie, c'est que on a une très faible... Donc les modèles ne sont pas d'accord entre eux en Afrique. Ils sont d'accord entre eux pour dire qu'il va y avoir une diminution des précipitations sur la zone méditerranéenne ou une augmentation dans les latitudes nord. Mais par contre, au niveau de l'Afrique, on n'a pas du tout cette convergence des modèles. Et autre chose qui est intéressante, c'est que ça dépend aussi des variables. Donc la précipitation, c'est une variable cruciale pour le rendement ou pour le ruissellement, pour les débits des fleuves. Et pourtant, c'est celle qui présente la plus grosse incertitude. On voit que là, la même chose, donc pour la température, il y a des pointillés partout. Donc on a un accord beaucoup plus fort entre les modèles au niveau de la température que pour les précipitations. Donc il y a des incertitudes aussi au niveau de la désagrégation, du choix de la méthode qu'on veut utiliser pour la désagrégation. Donc ici c'est un cycle saisonnier des débits de la Seine observés en noir et simulés avec un modèle de ruissellement, un modèle de débit, à partir de deux méthodes de régionalisation différentes, une méthode en régime de temps, donc c'est la courbe en triangle rouge, et une méthode en quantile-quantile, donc c'est juste une correction de la distribution. Et on fait la simulation à partir de ces deux méthodes de désagrégation-là, et on trouve qu'il y a une des méthodes qui surestime le débit de la Seine. Donc on a une incertitude au niveau de la méthode qu'on va utiliser. Donc autre incertitude, cette fois, c'est en utilisant des modèles régionaux. Donc je vais montrer les modèles régionaux qui s'emboîtent à des modèles de climat. Donc ici, j'ai pris un modèle de croissance de plantes simulé par des observations. Donc j'ai simulé le rendement au Sénégal. Donc ça, c'est le rendement des cultures. Donc c'est la courbe en noir. Et j'ai pris 9 modèles régionaux différents. Et j'ai fait exactement la même simulation sur l'Afrique. C'est juste changer le modèle, donc c'est un des types de modèles. Donc on voit que là, on a un ensemble de réponses complètement différents, des modèles qui simulent pratiquement zéro rendement au Sénégal, et d'autres qui simulent beaucoup plus de rendement. Et donc ça, c'est la même chose, mais j'ai combiné deux méthodes, une méthode dynamique et une méthode statistique. Donc j'ai pris les modèles régionaux, je les ai corrigés statistiquement avec une méthode de régionalisation statistique, et donc j'arrive à retrouver les résultats, à retrouver la bonne distribution des rendements. Donc bon, je pense que je vais conclure, c'était juste pour montrer donc les différentes méthodes pour arriver à l'échelle.
Tu as encore quelques minutes, hein?
Non, mais si je laisse un peu de temps pour la discussion. De toute façon, c'était toujours de l'illustration dans le même sens. C'était pour dire que donc, cette échelle régionale, c'est extrêmement important pour définir des facteurs de vulnérabilité, mais c'est assorti d'une très grande incertitude, encore plus grande que l'échelle des modèles de climat, puisque en fait, on la combine à d'autres incertitudes qui est l'incertitude de la réalisation, l'incertitude des modèles d'impact sur lesquels on va faire des simulations de rendement. Et donc, ce qui est très important, c'est d'essayer de rendre compte de cette incertitude, donc à travers des approches multimodèles, multiscénarios, et d'essayer de tenir compte de cette incertitude dans les définitions de la vulnérabilité et dans les options d'adaptation sur, donc en fonction des régions. Voilà, terminé.